liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, le retour. Semaine combien d'ailleurs?
Alors semaine 52 à 50, parce que t'étais en vacances.
Oui, c'est entièrement de ma faute. Donc pendant ces 3 semaines-là, ça a été foie gras, huîtres, saumon fumé et gastro-entérite. Mais bon, il faut savoir revenir aux choses sérieuses et arrêter de s'amuser. Qu'est-ce qu'on a retenu de ces 3 dernières semaines?
Il n'y avait pas forcément beaucoup d'articles, il faut avouer ce qu'il y a. On en a sélectionné tous les deux 7. On va vous parler un petit peu d'innovation et de monopole, des Anonymous et de Richard Stallman, une rétrospective, des prédictions, une interview croisée entre Eva Joly et Richard Stallman, encore lui, Apple et la presse qui se réveille avec un petit bobo, croire que la pilule n'est pas bien passée, et finalement on va parler des semences agricoles et d'Adopi.
Donc, premier article, c'est un article de Mehdi Benchoufi sur Atlantico. C'est à l'innovation que Google, Facebook ou Apple sont addicts, pas au contrôle de nos vies. Donc l'article nous semblait intéressant parce qu'il y a de l'argument derrière, donc c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, le point de vue nous semblait peut-être un petit peu naïf là-dessus. L'idée c'est de dire que ces gros services qui aujourd'hui sont en position monopolistique doivent leur position à la qualité de leur innovation et de leur service. Il parle notamment d'Alta Vista qui était par le passé en position extrêmement forte sur les moteurs de recherche et où Google l'avait détrôné à une vitesse assez impressionnante en arrivant avec un moteur de recherche beaucoup plus pertinent, beaucoup de simplicité et tout un fonctionnement où il n'y avait plus d'entraves sur l'accès à l'information, etc. Donc le propos se tient de ce côté-là, mais bon, c'est quand même critiquable sous certains aspects.
Bon, moi ce que je note aussi, c'est qu'il parle assez rapidement de l'open source, hein, comme quoi c'est un des mécanismes qui est utilisé par ces gros monopoles, mais qui nous enferme derrière et qui utilise les données pour nous bloquer. Bon, ils sont peut-être naïfs effectivement sur le fait qu'on puisse facilement en sortir à terme. Je vois pas trop comment on pourra faire sortir facilement ces 800 millions d'utilisateurs de Facebook. Je sais pas s'ils sont bloqués, mais en tout cas ça va être une sacrée gageure.
Puis en informatique, on a des contre-exemples. Microsoft, en son temps, a été une forme d'innovation en désolidarisant le matériel du logiciel, et c'est quelque chose qu'on peut pas nier à Microsoft, et ça les a pas empêchés, une fois en position de monopole, de faire des abus conséquents de leur position de monopole, pour arriver là où ils en sont aujourd'hui et tenir dans cette position très très longtemps. Ça reste, à mon sens, assez optimiste.
Article suivant, de Guillaume Grallet sur lepoint.fr. Richard Stallman, les Anonymous ne doivent pas dévoiler de données personnelles. Donc un article, alors supposément décapant de la part de l'auteur, mais qui finalement est peut-être un peu gentillet.
Oui, bah, on retrouve notre Richard Stallman favori tel qu'on le connaît, avec ses thèmes de prédilection, qui parle notamment des Anonymous, hein, donc le sujet qui fait toujours jaser. Il y a des nouvelles assez récentes, qu'on n'a pas dans la revue de presse, mais que je trouve assez intéressant à mentionner, avec le fait que les Anonymous se sont récemment attaqués au site web d'une société de mercenaires, ce qu'on appelle les sociétés de sécurité, et que cette fois, bah, ils ont récupéré les données bancaires des clients, donc les clients en l'occurrence c'est le département d'État américain et d'autres trucs comme ça, et qu'ils leur ont ponctionné $1 million pour les donner à différentes ONG et ce genre de choses. Donc ils sont passés en mode Robin des Bois, et ça je trouve qu'il fallait le mentionner, je suis assez admiratif là-dessus, et un peu inquiet pour eux aussi. Parce qu'ils sont quand même attaqués des gens qui sont des assassins, donc c'est quand même pas évident. En tout cas, bon voilà, Stallman est questionné sur toute une série de sujets, sur des Anonymous, mais pas seulement, sur Apple, enfin tous les sujets qu'on connaît, et bon, voilà, il distille ses paroles bien connues et de bon sens sur le point. Donc un article d'une grande diffusion, donc une bonne nouvelle que ce soit repris là-dessus.
Sur développer.com de Gordon Fowler. Rétro 2011, Apple et Adobe, les deux sociétés qui ont marqué l'année de IT pour la rédaction de développer.com et pour vous. Une bonne rétrospective, il n'y a pas que Adobe et Apple dont il est question, il est question un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on avait remarqué qui était très sympa? C'était quoi la plus grosse news de l'année finalement? Motorola et Google peut-être?
Alors moi j'ai du mal à choisir, pour toi Motorola et Google, donc on se souvient que Google a racheté Motorola, je sais plus combien, $12 milliards, quelque chose comme ça, uniquement pour ses brevets logiciels, donc c'est quand même des sommes astronomiques de pognon qui partent dans des trucs complètement débiles, et qui sont absolument pas ni de l'activité économique, ni des trucs de développement, donc c'est là que nos petites histoires d'innovation dont nous parlait Mehdi Benchoufi sont pas tout à fait convaincantes, il y a quand même voilà, des trucs de blocage et de verrouillage et de gaguère. Voilà, l'article, on ne va pas aller dans le détail dedans parce qu'il y a plein de sujets. En tout cas, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui s'est fait en 2011 et tout ça, c'est une bonne rétrospective pour se mettre à jour.
Le Monde informatique, 5 technologies open source pour 2012 de MG. Donc bien là, c'est le contraire, c'est les prédictions pour l'année qui vient.
Ouais, un article très technique, alors je vais te laisser en parler.
Bon, je vais aller rapidement. Hein. En gros, ce qu'on peut noter, c'est qu'il parle pas mal d'Internet et du cloud. Donc, il présente Nginx, un serveur web assez innovant et assez puissant, il semblerait. OpenStack, Stig. Ils vont parler aussi de cloud avec d'autres technologies de type... Alors, c'est ClusterFS hein, pour faire du système de fichiers partagés. Et Linux Mint, qui serait peut-être, d'après certains, le successeur d'Ubuntu en termes de renommée, de part de marché, parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix qu'Ubuntu.
Donc en tout cas, dans cet article, beaucoup d'éléments sur le cloud computing, il ne parle que de ça.
Oui, ça c'est clair qu'il y a une grosse attente. Je pense qu'elle était déjà là il y a une année, mais bon, ça se poursuit dans ce sens-là. On en reparlera à la fin de l'année prochaine.
Un petit mot quand même sur le cloud computing. Hein. Le mot en lui-même recouvre des trucs extrêmement différents, on en avait déjà parlé. C'est un peu plus précis de parler de services hébergés ou d'informatique de services, etc. Si le sujet vous intéresse, sur le site de l'April, on a des éléments, tout un travail qui a été fait sur... La question du cloud computing, et en quoi, par rapport au logiciel libre, ça n'est pas nécessairement une solution. Donc même si les logiciels sont open source, ou sous licence libre, derrière, on ne peut pas nécessairement garantir le respect de la vie privée, la liberté de l'utilisateur, etc. Donc c'est un sujet, enfin par rapport à l'évolution de l'informatique, qui est très très important, très intéressant.
Oui, Richard Stallman régulièrement fait remarquer que même si parfois il y a du logiciel libre qui est utilisé pour fournir des services en nuage, généralement les nuages c'est plutôt un moyen pour bloquer les gens et garder leurs données et garder la mainmise sur leurs données, donc de se méfier. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, moi j'utilise le cloud régulièrement hein, dans mon boulot. Donc on va passer à la suite, on va encore parler d'Internet. Hein. Navigateur web, Mozilla et Google renouvellent leur partenariat sur lemonde.fr. C'est un article de la rédaction. Donc voilà, on va parler gros sous.
Oui, c'est une chose qu'on a évoquée plusieurs fois, mais qui est importante, c'est que la fondation Mozilla, donc, qui fait essentiellement Firefox, mais plein d'autres projets également, bah, elle est financée par Google, qui a son propre navigateur Internet. Donc en fait, Firefox est financé par son concurrent, qui monte et prend des parts de marché très importantes. Donc on se demande combien de temps ce truc-là va tenir. Donc le jeu, évidemment, c'est à eux deux d'écraser Internet Explorer pour empêcher Microsoft de revenir. Mais évidemment, on se dit qu'une entreprise comme Google va peut-être pas financer son principal concurrent éternellement. Ça paraît un peu contre nature.
Alors, moi, j'ai vu d'autres articles là-dessus. Alors effectivement, Google contribue, c'est 84% du budget de Mozilla qui vient de Google, donc c'est quand même considérable. Mais ce que disent Google, c'est qu'en fait, eux, ils s'en fichent vraiment d'avoir des parts de marché sur Chrome. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire évoluer le web. Alors, c'est peut-être des jolies paroles lancées pour faire plaisir, mais d'un autre côté, leur business model, c'est la publicité, c'est le moteur de recherche, et ils ont besoin de faire venir les gens chez eux et avec des bons outils, et effectivement de casser les pieds à Microsoft, donc c'est peut-être suffisant. Oui, parce que si c'était pas Google qui filait de l'argent à Mozilla, vraisemblablement c'était Microsoft et le moteur de recherche Bing, qu'on connaît pas beaucoup en Europe, mais que Microsoft met en avant, et ils dépensent pas mal d'argent pour ça.
Mais conclusion, il ne faut pas que Firefox baisse en part de marché, sinon le jour où il ne pèse plus rien, il disparaissent.
Alors, d'après certains sites, c'est pas encore officiel, mais Chrome est passé devant Firefox. Ça y est, là, je crois que c'est arrivé pour certains il y a un mois ou deux. Ça fait beaucoup jaser, ça fait mal au cœur, parce que Chrome n'est pas tout à fait aussi libre. Il l'est largement, mais il n'est pas complètement. Et puis, il n'est pas construit avec une communauté de la même manière. C'est vraiment c'est une différence un peu cathédrale et bazar, on pourrait dire. Il est construit à l'intérieur de Google par des équipes de Google sans qu'on y jette un œil. Alors que Mozilla, c'est vraiment une structure tout ce qu'il y a d'ouverte. Un petit peu bazar, hein, on peut le dire. Mais bon, moi, j'y tiens beaucoup. Donc, j'espère que ça va rester comme ça.
Un article du Nouvel Observateur. Donc une interview d'Eva Joly, légalisons le partage sur Internet. Donc une interview de Boris Maninti.
Son article corollaire, Richard Stallman, la censure sur le web a explosé en France. C'est des interviews croisées, des articles croisés, suite à une rencontre entre Eva Joly et Richard Stallman. Et il parle un petit peu de tout ce qui se passe en France et de la loi, notamment le partage, donc Adopi et les lois qui essayent de restreindre nos échanges.
Voilà, donc Eva Joly, qui est une des candidates qui a pris parti contre Adopi et de la façon la plus tranchée. On sait qu'au niveau du PS, c'est extrêmement tiède et prudent. Eh ben, allez voir ce qu'elle dit, c'est intéressant. faites la comparaison avec ce que raconte Stallman, ce qui permet de faire un bilan pour voir où on en est. Hein. Il y a effectivement eu en 2011, entre Adopi, mais il y a également le Psy qui a mis des trucs en place qui permettent des idées de filtrage et de surveillance, etc., qui sont assez importants, assez considérables. Donc c'est une bonne occasion d'aller se documenter là-dessus. Et ACTA également, qui instaure par principe la surveillance, le filtrage, la riposte graduée, etc. Article suivant, lemonde.fr, technologie, Apple et la presse pas si compatibles, un article de Yves Eude. Alors celui-là, je l'aime bien, alors, parce que bon, tu le sais, taper sur Apple, c'est mon petit plaisir, mais aussi parce qu'Apple, avec l'iPad, avait joué un coup assez faramineux à l'encontre de la presse. Donc en sortant l'iPad, il y a la machine en elle-même, mais derrière, il y a tout un réseau de communication fermé, c'est tout le modèle Apple déjà mis en place avec l'iPhone, c'est un peu le super Minitel, joli, extrêmement bien fait, il faut l'avouer, mais où on a un truc où on est obligé de passer par le store d'Apple, où on peut pas mettre n'importe quoi dessus, ils ont pas mis des ports USB tout de suite, et puis maintenant là on peut brancher son appareil photo pour récupérer ses photos, mais on mettra pas de musique, qu'on a récupéré n'importe où, etc. Donc un beau système de communication fermé, et évidemment ça a plu à la presse, qui a perdu énormément de plumes depuis 10 ans à cause d'Internet. Donc Apple arrive avec un super système fermé en disant maintenant vous allez pouvoir vendre vos journaux sur un truc super branché, génial, etc. Donc la presse a encensé l'iPad, s'est lancé dans le machin, on fait les investissements adéquats, et Apple a dit coucou, on change maintenant les conditions d'usage, hein, du danger du cloud computing, et donc tout ce que vous mettez chez nous, vous le vendez nécessairement par l'Apple Store, et on prend 30% sur tout ce que vous vendez. Et là évidemment ça leur a fait assez mal, et donc ils ont avalé la pomme. Hein. Donc maintenant ils sont en train de s'organiser pour faire face à ça, et en disant que ça commence à bien faire et qu'il ne faut pas leur jouer de trop non plus.
Alors sans oublier qu'il n'y a pas juste les 30%, mais en plus de ça, ils n'ont pas un accès aisé aux données des utilisateurs et des clients. Parce que c'est Apple qui les conserve et Apple qui y tient et ne les fournit pas de manière simple, loin de là.
Quand on sait que la presse se rémunère quand même très largement sur la question de la pub et ce genre de choses, ne pas avoir ses données clients, c'est juste monstrueux. Et il y a plein d'autres conditions, notamment Apple impose des gammes de prix, on ne peut pas mettre exactement le prix qu'on veut, enfin, ils peuvent évidemment dégager un titre de leur service si ça ne leur plaît pas. On sait qu'il y avait un groupe de presse suédois, je crois, qui avait une publication sur Android, et Apple leur a dit « bah non, on ne parlerait pas d'Android sur l'iPad, c'est juste hors de question ». Ça se rebelle, hein. Qu'est-ce qu'on a ?
Eh bien, ils vont parler notamment, alors, du point de vue de cette rébellion, de HTML5, ce qui est presque amusant parce que HTML5, c'est un nouveau standard qui a été favorisé par Apple, qui a lui-même cassé les pieds à Flash. Et HTML5, c'est un peu le concurrent de Flash, et donc les éditeurs, les vendeurs de journaux, eh bien, ils vont essayer de fournir leur contenu sous cette nouvelle technologie HTML5, et qui leur permet de ne plus passer par l'Apple Store. Et ça, c'est les 30% qui n'ont plus à fournir. Et en plus de ça, ils sont beaucoup plus facilement compatibles entre les produits Apple et les produits Android. Et ils n'ont plus à se préoccuper de l'interaction. Enfin, ils ne passent pas du tout par Apple. Ils ont contourné le problème.
Voilà, donc c'est le Financial Times qui a fait ça. Côté de ça, il y a d'autres initiatives, notamment des syndicats avec des journaux qui se regroupent à plusieurs pour peser plus lourd face à Apple et leur mettre la pression.
Moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont avoir du mal, hein, au niveau des parts de marché de toute manière. Donc, c'est juste que là, ils ont essayé de se raccrocher à Apple, hein, qui leur a fait miroiter des bénéfices mirobolants, et que bah, le réveil est un petit peu difficile. Hein. Ça va peut-être pas s'améliorer avec le temps. J'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Donc, on va terminer avec un article sur Rue 89 Echo. Donc, le rapport entre Adopi et les semences agricoles, la création en panne, de F. Guyot. C'est un article un petit peu qui regroupe pas mal de choses, notamment qui reprend les propos de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a parlé de Adopi 3, il voulait combattre finalement le streaming par exemple. Et il y a des rapports entre la création et les semences agricoles qui sont issues elles aussi d'un travail de création. Ben, de la même manière, ils veulent les soi-disant protéger.
Alors, c'est un article bon, qui a le mérite comme ça d'être assez large, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Et des liens entre des sujets dont on sait qu'ils sont proches, mais qu'on rapproche pas si souvent que ça, donc il est très intéressant pour ça. Voilà, il pose toute une série de questions pour savoir si les modèles de financement de la création qu'on connaît d'un côté ou de l'autre sont efficaces et adaptés, des dangers de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'idée de pouvoir poser des brevets sur du logiciel ou sur du vivant, voilà, des choses comme ça. L'article reste relativement simple, hein, il va pas trop dans le fond non plus. En tout cas, bon, voilà, pour quelqu'un qui connaît pas trop les sujets, une bonne introduction.
Bon, ben sur ce, on va terminer cette Dernière revue de presse de l'année, qui est aussi la première, hein, puisqu'on est la semaine 1 de l'année 2012.
Ça y est, je suis perdu.
Oui, c'est ça la numérotation, hein, c'est un peu compliqué. Donc je te dis à la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine, et salut Montpellier.
Et puis bonne année.
Oui. C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.